Bonjour Gaëtan.
Bonjour Hervé.
Il n'aime pas quand il semble, parce qu'il reste toujours humble. Pour représenter
Je suis pas grand.
Pour représenter le GON, le groupement ornithologique et naturaliste, du Douaisy. Ça y est, c'est le retour au plein air, Gaëtan.
Oui, enfin. Ah, ça nous, le plein air, on l'a toujours eu, hein, mais isolément, chacun, chacun pour soi.
C'est-à-dire que c'est fini le bon temps pour les oiseaux. Maintenant qu'on peut tous... Et finalement, ils ont eu deux ans de bonheur absolu.
Alors, ils ont eu 2 ans de bonheur absolu, même si... Bon, allez, l'expression est un peu excessive, sans doute. Le premier confinement a été intéressant à beaucoup d'égards, c'est certain, parce que vraiment, l'arrêt énorme, l'énorme arrêt, quoi, d'activité humaine, de transport, d'activité d'une façon générale... Ça a révélé à beaucoup de gens l'existence encore de choses, d'animaux, de cris, de chants, de bruits, que les gens ne soupçonnaient pas, quoi. Et ça a libéré de l'espace pour les espèces de faune qui ont, un moment, pendant quelques semaines, parfois reconquis des territoires qu'ils avaient perdus. C'est-à-dire qu'on a vu des choses dans certaines villes, des animaux qu'on ne voyait plus, quoi.
Ouais.
Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, tout est revenu, entre guillemets, dans l'ordre. Et ce n'est pas forcément un ordre que je n'aime bien.
Dans l'ordre établi par l'homme.
Voilà.
Il y a eu, tu parlais de grandes villes, mais dans les observations sur le Douaisy, toi, tu as vu des choses, justement, que tu ne t'attendais pas à voir ou que tu ne croyais plus pouvoir voir.
Sincèrement, au niveau local, non. Parce que nous, on est quand même souvent dehors. Et donc, malgré tout, on fréquente des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde. On y va à des heures où il n'y a pas beaucoup de monde. Donc non, sincèrement, je n'ai pas vu de changement fondamental. Par contre, dans les villes, c'est le silence qui était intéressant. C'est le silence. C'est-à-dire le bruit de circulation, essentiellement, qui était très, très diminué, quoi. Mmh. Et ça, le silence révèle les autres bruits. Révèle les chants, entre autres, puisque quand il n'y a plus de bruit mécanique, là, ce que j'ai remarqué dans les villes, c'est ça, c'est le silence.
C'est-à-dire que les espèces, elles sont là, mais on ne les entend pas et on ne peut pas forcément toujours les voir.
Alors, effectivement, les oiseaux, notamment au printemps, ont la particularité de chanter, hein, pour s'installer, localiser un territoire auprès des voisins, etc. Mais avec les bruits de l'urbain, on ne les entend pas, on les entend peu. L'année dernière, non, c'était même, plutôt en 2021, quand on faisait un recensement au jardin public, au parc Bertin, etc., on n'avait quasiment pas de bruit automobile, quoi. Donc, Bon, j'avais pas le droit d'aller au parc Bertin, c'était au-dehors du kilomètre, mais...
Ouais. À vol d'oiseau. Voilà, c'est le cas de le dire. Justement, l'observation... on apprend à observer les oiseaux, on apprend à...
Oui.
Comment ça s'apprend ? Est-ce que c'est la vocation du GON ? Parce que moi, par exemple, j'adore aller me promener tout le matin, tu sais, ou alors juste dans ce moment où entre chien et loup, ou à l'heure bleue, quand les choses se réveillent ou s'endorment.
Les effets de lisière. On parle d'effet de lisière des fois pour des choses visuelles, mais c'est aussi l'effet de lisière pour les bruits. C'est l'effet de lisière, le changement du jour à la nuit, de la nuit au jour. Oui, oui, tout à fait.
Alors, j'entends des choses que je ne vois pas, parce qu'ils sont bien cachés dans les arbres et tout. Et je suis incapable de dire ce que j'entends, par contre. Ouais. J'aime entendre. Comment on apprend tout ça ?
Je crois que y a deux façons de faire. La façon autodidacte, hein, c'est celle que j'ai vécue. C'est-à-dire que rencontrer quelqu'un d'abord qui appartient déjà au GON, on a une appétence, on a envie de savoir, mais on ne sait pas comment apprendre. Donc aller auprès des associations, se renseigner, là c'est important. Pourquoi on organise des sorties ? On accompagne les gens et on leur dit voilà, essayez d'écouter, essayez d'isoler les chants les uns des autres. Puis quand il y en a un qui est tout seul, hop, on l'identifie. Donc c'est vraiment l'accompagnement et les sorties terrain avec des gens qui savent le faire. Il faut avoir l'envie, il faut avoir la volonté. Et alors aujourd'hui, on va même plus loin, nous, puisqu'on a un parcours de formation. On a un parcours de formation qui s'étale du mois de septembre au mois de juin, tous les ans, avec 18 formations en salle, cours du soir, 3 heures tous les 15 jours, et 18 sorties terrain de 5, 6, 7 heures selon les cas, en alternance avec les sorties, avec les cours du soir. Donc là, les gens, ils viennent et vraiment, ils sont pris en charge, quoi. Ils sont pris en charge. Alors, c'est ouvert à tout le monde. C'est un peu payant, forcément, parce que ça occasionne des frais. Il y a des gens qui... des formateurs qui se déplacent, etc. Et donc, on a ressenti, à un moment donné, ce besoin de faire de la formation, notamment en observant nos collègues belges.
Ouais.
Qui sont parfois en avance sur nous, sur certaines choses. Et donc, c'est avec l'association Aves Natagora qu'on a monté ce parcours de formation. Voilà. Il y a des niveaux 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 3 plus maintenant. Parce que les gens, pas forcément tous, mais les gens ont envie de continuer. Parce qu'il faut du temps.
Parce que plus les gens sont formés, plus ils sont donc sensibles et contaminent leur environnement. Il y a cette idée-là également.
Absolument. Nous, on est très ouverts. Il y a des gens qui viennent pour leur simple plaisir personnel, et c'est parfaitement respectable. Et puis, il y a des gens qui viennent et qui s'investissent derrière. On a des gens qui sont venus et qui ont créé des sections locales et qui ont créé et qui participent aux missions d'intérêt général. On a une mission de connaissance. Nous, le but, c'est de connaître. Et on ne peut protéger correctement que ce que l'on connaît correctement. Et donc, notre mission principale, c'est ça, c'est la connaissance et ensuite la participation à la protection. Et il y a des gens qui, après avoir suivi ou en cours de formation, se disent « mais ça m'intéresse et je vais m'investir ».
En quoi un élément isolé de la chaîne alimentaire, de la chaîne animale, si on prend les oiseaux, ça peut être révélateur d'un état de santé général d'un milieu
Tout est lié. Tout est lié. L'existence d'une espèce n'est pas isolée, ne fonctionne pas en autonomie. Tout est lié. Donc à partir du moment où on remarque soit une augmentation, soit malheureusement souvent une diminution d'une population, on se dit il y a quelque chose qui déraille dans la chaîne. Il y a quelque chose qui va du brin d'herbe, de l'insecte qui est sur le brin d'herbe, de l'oiseau qui mange l'insecte, d'un autre oiseau qui mange le petit oiseau. Tout ça, c'est très lié. Donc forcément, quand il y a un des maillons de la chaîne qui varie, ouais, en plus ou en moins, et c'est souvent en moins, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la notion de chaîne alimentaire et de maillon. Quand il y a un maillon faible, c'est que la chaîne casse. Et quand la chaîne casse, il peut y avoir d'autres maillons qui déraillent.
Localement, la biodiversité dans le Douaisis, elle continue à baisser parce qu'on a senti quand même qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, une prise de conscience. On est quand même sur un territoire qui s'est questionné avec des politiques qui ont parfois fait leur mea culpa et ont changé même et ont intégré cette idée de gérer autrement. Ça y est, on est sur la bonne voie,
On se dirige vers la bonne voie. Il faut du temps. Il faut du temps parce que le problème, c'est que toutes les initiatives, aussi positives qu'elles soient, les gestions différenciées, l'arrêt des pesticides en ville, etc., la prise en compte de la biodiversité dans le bâti, tout ça est formidable. Mais mon sentiment personnel aujourd'hui, c'est que malgré tout, par rapport à la marche du monde, par rapport à cette espèce de rouleau compresseur qui fait que les champs sont de plus en plus grands, que le bocage, même si on reboise par-ci, par-là, a disparu, que il y a une espèce de rouleau compresseur du entre guillemets progrès, de la croissance, qui fait qu'il y a un effet retard, quoi. Et toutes les initiatives prouvent qu'on peut revenir en arrière, revenir en arrière au sens positif du terme, pas revenir à la bougie, mais qu'on peut revoir des espèces qu'on ne voyait plus, qu'on peut retrouver des milieux qu'on ne voyait plus. Mais bon, j'avoue, je ne suis pas forcément extrêmement optimiste, quoi. J'approuve et je dis bravo à tout ce qu'il fait. Il faut le faire. C'est l'honneur de l'homme que de le faire. C'est la condition de sa survie aussi. Mais je trouve que ça ne va pas assez vite et que ce n'est pas assez partagé encore.
Aujourd'hui, pour compter les oiseaux, faut quoi ? Faut des gens qui se promènent ou faut des radars ?
Je ne vois pas du tout à quoi tu fais allusion.
Ben, on va en parler de ce radar parce que nombre d'associations expliquent la situation.
Bon, les radars, depuis le changement de majorité au conseil régional... la politique biodiversité a été confiée aux grands responsables locaux de la chasse, Et donc, ils ont obtenu des financements pour notamment un équipement radar pour suivre les oiseaux migrateurs au-delà de la mer, enfin sur les caps, quoi, sur une grande route maritime de migration. Alors, le radar est un outil technique qui peut rendre des services, mais il ne suffit pas, d'une part, parce qu'il a quand même des limites. Identifier, c'est des petits oiseaux, c'est des gros oiseaux, ça va. Mais quelle espèce ça, c'est pas évident pour un radar, c'est pas simple. D'autre part, il nécessite des interprétations. Et aujourd'hui, on est toujours en attente vraiment de ces interprétations. Qu'est-ce qu'il nous dit, le radar? On n'a pas beaucoup de rendus. Donc non, ça suffit pas, quoi. Ça pourrait être un outil supplémentaire de connaissance. Mais aujourd'hui, il n'a pas fait ses preuves. En tout cas, on n'a pas suffisamment de retour là-dessus. Donc oui, il faut aussi des hommes. Il faut d'abord des hommes, même si on utilise des radars.
Si ces hommes sont chasseurs et qu'ils font non pas des actions de chasse, mais des prélèvements, parce que j'ai entendu parler de ça, ils me disent, mais nous, on est des vigies également, parce qu'on empêche, à l'heure des épidémies, des pandémies, par nos prélèvements, l'arrivée de maladies. On pense notamment à la grippe aviaire. On est les premières vigies capables de remonter.
Alors, je peux entendre ces discours, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas intégriste anti-chasse. D'ailleurs, je siège dans différentes commissions où on est souvent d'accord sur un certain nombre de choses, même si on n'est pas d'accord sur tout. Donc oui, il peut y avoir un rôle à jouer. La question est de savoir si on travaille pour l'intérêt général ou si on ne travaille pas pour l'intérêt général. Dans les activités des chasseurs, il peut y avoir des choses utiles, à l'évidence. Maintenant, il ne faut pas que ça dévie vers l'intérêt particulier. Le monde des chasseurs, il est comme le monde en général. Il y a des gens de toute sensibilité. Il y a des gens avec lesquels on peut s'entendre et des gens avec lesquels c'est plus difficile.
Ouais, faut savoir s'écouter pour pouvoir discuter.
Il faut savoir s'écouter pour discuter, pour progresser ensemble. Je pense que de toute façon, le conflit systématique n'est pas possible, est une impasse. Hein? L'opposition systématique est une impasse. Il ne faut pas abandonner ses convictions, mais il faut accepter l'idée du compromis. Et ça, c'est pas simple.
Alors, le GON donne rendez-vous prochainement pour des sorties, également pour des expositions. Allez, on va faire le petit temps promo quand même, parce que c'est important, vous êtes là toute la journée. Hein. Ici, Place Saint-Amé pour la journée verte, puisque nous sommes en direct Place Saint-Amé. Mais vous donnez également rendez-vous aux Douaisiens et au-delà dans les jours et semaines à venir.
Voilà, alors en ce moment, il y a l'expo sur le loup. Il y a une expo sur le loup qui se déroule à la MJC. Donc, elle a démarré le 29 mars avec notamment une conférence qui a eu lieu, Anthony Kohler, hein, qui est administrateur de l'association Ferus, hein, spécialisé dans l'étude et la protection du loup, du lynx, de l'ours, enfin des grands prédateurs sauvages. Elle est visible à la MJC jusqu'au 24 avril. Alors elle est consacrée au loup, mais elle est très large. Il y a des travaux d'artistes, il y a des petits, des choses ludiques, il y a des choses pour les enfants.
Le loup dans la littérature.
Voilà, l'histoire du loup. Mmh. La rue du Canteleu, hein, c'est la rue du Champ du Loup. Hein.
Le Champ du Loup, c'est juste à côté d'ici. Ouais, voilà. J'étais surpris. Bon. Parce qu'il y a cette carte où on retrouve la trace du loup dans les noms de villes en France.
C'est génial, ça. C'est, voilà.
Et quand j'ai vu du loup, j'ai dit, mais c'est, oui, effectivement, rue du Canteleu. Ouais.
L'auberge du Lepindu, l'auberge du Lepindu, c'est l'auberge du loup pendu. Hein. Oui. Non, c'est... Alors le loup cristallise beaucoup de choses. Et l'avantage de cette conférence qui a eu lieu, et c'est que c'est comme toujours, sacraliser une espèce animale, c'est parfois un peu excessif. Mm. On peut comprendre le désarroi d'éleveurs qui ont leur bergerie attaquée. On peut le comprendre. Maintenant, autoriser de manière un peu aveugle, le tir de 100 loups en France, ça n'a pas de sens, parce que c'est un contresens sur le plan de la gestion de cette espèce qui, rappelons-le, est totalement protégée en Europe, et en France en particulier.
Donc rendez-vous à la MJC pour l'exposition, voilà. Et puis les sorties nature reprennent également.
Oui, alors les sorties nature reprennent, la prochaine est le 30 avril en Vallée de la Sensée, à l'Écluse, et à 9h. Pour s'inscrire, on passe par le site de FestiPlanète, comme ça on gère les inscriptions d'avance, de manière à adapter le nombre de guides si jamais on était très 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 nombreux. Et puis ensuite, il y aura une sortie le 13 mai en forêt de Marchienne. Pareil, elle est inscription recommandée sur le site de FestiPlanet.
Voilà. Comment ça se passe actuellement et comment se porte l'espace naturel régional de Douai là-bas du côté
La réserve de Oignonville ?
Oui, la réserve de Oignonville.
Alors c'est une réserve naturelle régionale, effectivement. Oui. Elle a subi l'assaut de la tempête la fin février, ouais. Donc elle a été inaccessible. Enfin, le chemin d'accès aux observatoires était inaccessible. On a dû suspendre les sorties. Donc là, on n'a pas refait de calendrier, mais ce sera refait très prochainement. Et nos adhérents ainsi que la presse auront les informations. Les services de la ville ont eu beaucoup de boulot après cette tempête pour débarrasser. Et c'est vrai que en termes d'accès public, comme elle est fermée au public mais ouverte uniquement sur sortie guidée, ce n'était pas la priorité, c'est normal.
Voilà, mais c'est vrai que c'est important que de se tenir informé de votre actualité parce que c'est le moment d'aller découvrir cet espace.
Tout à fait.
Voilà. En tout cas, merci. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui tout au long de la journée
Alors, un petit jeu d'identification. Il y a 5 ou 6 espèces sur un panneau, il faut les identifier. Alors, je ne vais pas dire quelles sont les espèces.
À plume.
Et puis il y a aussi des petites choses sur des traces. Il y a un bois rongé par un castor, parce qu'on sait que le castor est revenu maintenant dans notre région. Et puis on a l'atlas des oiseaux nicheurs du Nord-Pas-de-Calais qui a été fait, qui est en vente. Enfin voilà. Et puis on est là pour répondre aux questions.
Merci Gaëtan.